Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à vous tous, bienvenue dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Ce soir, nous parlons du Mondial Qatar 2022. Eric Manirakiza avec vous au micro, Georges et Léonard Sagnoa sur la mise en onde. L'Afrique et les États-Unis reviennent en huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a fallu deux décennies au Sénégal avant de revoir la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde, 20 ans après l'épopée de 2002 jusqu'en quart. Les Lions de l'Atlas écrivent cette page d'histoire d'une qualification pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Et là, je parle du Maroc. Les Américains ont supplanté les Iraniens dans une fiche à fort retentissement géopolitique, mais disputée sans animosité particulière. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Roger Mountou, journaliste et amateur du foot, qui est avec moi dans ce studio. Roger, bonsoir.
Bonsoir, Erika.
À Ottawa, au Canada, Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond. Tarsis, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Nous aurons également Agbenigan Amouzou, dit coach Fofo, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il est ancien international togolais et fondateur encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland, ici aux États-Unis. Bienvenue encore une fois dans l'Amérique. Et vous, de la France au Japon, en passant par les États-Unis, les audiences télévisées du mondial de foot au Qatar restent puissantes. Et Roger, vous êtes aussi un supporter de plus.
Exactement, bien sûr, comme beaucoup des Africains qui les Africains qui se respectent, hein, on aime bien le foot, c'est notre sport.
Vous l'aimez le regarder ou le jouer?
C'est une très bonne question, hein, Eric. D'abord, j'ai joué depuis mon enfance aussi, et j'ai aidé un peu au lycée comme un assistant coach ou entraîneur de soccer qu'on appelle ici le football. Et donc, je joue et j'ai aussi un peu entraîné au lycée ici aux États-Unis.
Vous avez joué?
Non, pas professionnellement, mais jouer en tant qu'enfant.
Ça ne vous ressemble pas.
Ben, ça me ressemble pas. Donc, on peut voir à quoi ça ressemble.
Roger, je sais que vous avez rencontré des supporters devant leurs écrans. C'était ici à Washington, dans les environs de Washington. C'était pour quelle rencontre, encore une fois?
Exactement, c'était le match USA contre l'Angleterre. Et donc je suis allé à la rencontre de tous ces fans qui regardaient ce match à un coin de la Virginie, Babylon Football Café.
On va les écouter.
Tout le monde savait que ça allait être difficile. Mais une score de 0-0, je prends ça. Ouais, j'accepte ça. C'est mieux que de perdre.
Je pense qu'ils se sont très bien débrouillés. Je pense que c'était une surprise. L'Angleterre est, vous savez, une équipe favorite pour gagner la Coupe du Monde. Et je pense que les États-Unis ont très bien joué à plusieurs reprises pendant le match. Ils ont donné l'impression que l'Angleterre avait du mal à jouer. Ils ont bien joué. Ils ont maintenu la pression. Ils ont gardé leur discipline. Donc, c'était plutôt bien.
Tu l'as. C'est bon, oui. Allez. Wow. Je pense qu'ils doivent presser un peu plus. Je pense que nous devons être un peu plus agressifs à l'intérieur de la surface de réparation. Je pense que nous n'avons pas pris assez de risques comme je l'aurais souhaité. Et donc, je pense qu'ils ont besoin de presser plus vers l'avant.
L'énergie a commencé à faiblir vers la fin. C'est parce qu'ils ont fait des allers-retours à haute énergie. Donc, c'est le risque, n'est-ce pas? Lorsque vous y allez à fond, d'un bout à l'autre du terrain, non-stop, éventuellement, à la minute 85-88, ils ont tout de même réussi à conserver leur énergie, mais ils ont joué un peu trop conservateur à mon goût.
Je suis originaire du Cameroun. Je supporte le Cameroun 100%, 200%. Mais aussi, je supporte les États-Unis parce que maintenant, c'est exactement, c'est mon pays, c'est là où je suis maintenant. Ah, les États-Unis contre le Cameroun, je vais supporter le Cameroun.
Roger, sauf que le Cameroun joue contre le Brésil en ce moment. Uh-huh. J'espère que notre téléspectateur est en train de suivre ce match. En quelques secondes, off the record, mm-hmm. Ça c'est juste les sentiments exprimés au micro, mm-hmm. mais avant de leur tendre le micro... Mm-hmm.
Avant de leur tendre le micro, on a vu hein, l'engouement et le comment ils sont tous très contents. On a entendu la dame Mackenzie qui venait, qui au fait était en route. Elle venait de New York avec sa maman de 85 ans et elles allaient en Caroline du Sud et se sont arrêtées juste pour voir ce match-là. C'est pour montrer un peu comment ils étaient tous très contents de suivre ce match-là. Un match, bien sûr, qui devient un peu compétitif quand il s'agit de l'Angleterre et des États-Unis.
Tarsis, selon les calculs du magazine français Challenge, seuls 54 millions d'Européens ont suivi le premier match de leur sélection nationale contre 94 millions en 2018. Mais l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie s'affirment comme des marchés demandeurs de contenu footballistique de très haut niveau, pas forcément concernés par les débats autour du boycott.
Oui, ils sont pas concernés, mais c'est qu'il faut dire que ces derniers temps, il y a aussi des réseaux sociaux qui sont rentrés, il y a les plateformes qui jouent aussi, et là, au niveau des sondages, on calcule beaucoup plus l'audience au niveau de la télévision encore, mais ils n'ont pas encore réussi vraiment à avoir des statistiques précises sur... disons l'audience à travers les plateformes MENA qui sont mises en vente aussi par les organisations comme la FIFA et le Comité international olympique. Mais je pense aussi qu'on a des difficultés actuellement en Afrique d'avoir des droits de retransmission, ce qui veut dire que les spectateurs se déplacent, ils vont dans des bars, ils vont ailleurs pour regarder les matchs parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les voir en fait.
Et c'est ça aussi la beauté du football. Autour d'un verre.
Oui, la beauté du football, c'est d'abord l'appartenance à un groupe, à une équipe. Et au-delà de ça, il y a aussi cette image. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le lien entre les joueurs, les familles, et beaucoup plus avec l'histoire. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, mon option tactique et schéma et statistique que je fais, par exemple au niveau des joueurs européens et également tout à l'heure avec les États-Unis, je regarde aussi l'origine des joueurs, je regarde leur passé, j'essaie de voir comment effectivement ils se sont intégrés dans la société difficilement à cause effectivement de l'histoire, à cause du foot notamment.
Coach Fofo, vous êtes là, vous nous suivez. Supporters n'ont pas boudé l'unique moment où leur sélection affronte les meilleurs joueurs du monde.
Vous répétez la question s'il vous plaît?
Je disais que les supporters n'ont pas boudé cet unique moment où leur sélection affronte les meilleurs joueurs du monde.
Oui, effectivement, je crois que c'est ce que moi j'ai remarqué pour cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde a été vraiment ouverte parce que la surprise de tous les jours a fait que les gens n'ont pas boudé ou les supporters voulaient faire partie du grand jeu. C'est ce que moi j'ai vu parce que il y avait la joie, la fête voulait faire embrasser par le jeu qui était là tous les jours, de ne pas compter sur une équipe qui est plutôt favori d'entrée. Mais la surprise a fait que tous les supporters ou tous les fans étaient là à vouloir emporter, supporter toutes les matchs de tous les jours. Et donc, c'est ce que moi j'ai pu remarquer. Et ça a dû aussi à l'élévation du football. Le football a beaucoup changé. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se permettre que oui, je suis dominant, je suis venu, je suis favori. Et regarde, aujourd'hui, toutes les grandes têtes qui sont sorties, l'Allemagne, l'Uruguay, on peut...
On va en parler. Ouais. Coach Fofo, les États-Unis ont brisé le rêve iranien d'une première qualification historique pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Ça a été une surprise pour vous?
Non, pas du tout, parce que j'ai vu, depuis que je suis arrivé dans ce pays, ça fait 20 ans, et j'ai vu le football des États-Unis il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Et dans ce progrès, accompagné de une majorité de jeunes joueurs dans cette équipe, je crois qu'ils ont une vision pour le 2026 qui a commencé en 2022. Donc, ne soyons pas surpris, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont fait des efforts et ça commence à payer. Et cette équipe, dans les 4 ans qui vont venir, peut risquer d'être champion ou être dans les têtes de favoris.
Roger, est-ce que tu te rappelles du geste que tu as posé après ce match États-Unis-Iran? Je me rappelle que je t'ai vu et tu portais le jersey de quel joueur?
Pulisic, voilà, exactement.
Qui a marqué même le but, seul but de la rencontre. Oui, et... Comment vous êtes senti
en ce moment-là? Ouais, ouais. Mais écoutez, Eric, on vient d'entendre ce que coach Fofo vient de dire. Hein. Moi aussi, ça fait quand je suis arrivé dans ce pays, c'était il y a 35 ans. Le football était, quand vous parlez du football, donc le soccer que les Américains appellent, ils pensaient, enfin, c'est comme si tu étais en train de parler chinois. Bon, ils comprenaient pas exactement ce que c'était. Et aujourd'hui, quand on voit comment les Américains, l'engouement autour de ce jeu, et nous-mêmes étant aujourd'hui Américains, et ça, c'est ce sport qui a eu tant de peine à s'imposer en Amérique du Nord, aujourd'hui avoir cet engouement-là, et je ne peux qu'être heureux. J'étais super content en tant qu'Américain de voir que cette équipe gagne contre l'Iran.
Est-ce que vous avez chanté USA, USA?
Ah, ben ça, c'est la chanson de tous les jours quand on gagne. Et c'est USA, USA.
Et vous avez oublié votre tablier de journaliste?
Écoutez, je veux répondre à ça.
USA, USA, oh, sacré match! Tu sais, c'est lui qui a dit ça?
C'est qui a dit ça?
C'est le président Joe Biden.
Ah, il a dit ça?
Ah, ouais. En apprenant le résultat lors de son déplacement dans le Michigan, il a dit, ils l'ont fait! C'est ce qu'il a dit. Tarsis, voilà les États-Unis en huitième de finale du mondial comme en 2010 et 2014. Mais si ce duel contre les Iraniens n'était pas un sommet footballistique, il a tout de même fait un gros titre en raison de sa forte portée symbolique et politique.
Oui, symbolique et politique. Ce que j'ai aimé, c'est que les deux équipes ont fait un beau match. Ils ont livré la meilleure équipe à gagner, c'est bien sûr les États-Unis. Mais ce que je n'ai pas aimé, par contre, c'est qu'il y a eu peu de joueurs des États-Unis qui sont allés saluer les Iraniens, sauf un. Et donc ça ne m'a pas plu. Évidemment, du côté des États-Unis, ils étaient emballés, ils étaient dans la fête. De l'autre côté, il y a eu un repli de cette équipe iranienne qui s'est repliée. Complètement déçu, sans doute, le poids politique. Mais j'ai vu un joueur quand même qui a été courageux, qui est allé saluer quand même un des joueurs de l'Iran. Et ça fait, c'est le fair play. Et puis, bon, politiquement, on en parle, on fait monter la tension. Mais entre joueurs, ça va et ça marche. Et il y a toujours le fair play.
Les téléspectateurs ont adopté un comportement différent. Supporters des deux équipes ont fraternisé ce mardi dans le métro comme aux abords du stade, se prenant en photo ensemble. Et beaucoup d'entre eux se sont munis des fanions aux couleurs des deux pays. Suivez quelques supporters américains.
C'est très éprouvant pour les nerfs. Je suis heureux d'obtenir cette victoire. Heureux pour les gars. Ils ont travaillé comme des fous. On ne peut pas dire assez sur les relations entre les deux pays. J'ai trouvé leurs fans très gracieux et sympathiques. Je leur souhaite la meilleure des chances pour l'avenir. Je ne peux pas dire à quel point je suis fier de nos gars. Nous passons au prochain tour. Allez, les États-Unis.
Très excité, mais je dois vous dire la vérité. Être ensemble avec les fans iraniens, c'était génial. Juste pour être une même famille mondiale. C'est ça, c'est ce dont il s'agit.
Il n'y avait pas de politique dans le stade ce soir. Tout le monde était ami. Je n'ai jamais pris autant de photos avec les gens que ce soir. Tout le monde était un ami ce soir. Tout le monde est là pour tout le monde. J'ai l'impression d'être ami avec tout le monde dans le stade. Il n'y a pas de politique ici. Ce n'est que du football, que du sport. Et nous avons juste passé un bon moment.
America, America, USA, USA. USA!
Roger, je sais que tu dois partir là tout de suite. Vous avez entendu les cris USA. Bon, il ne vous a pas entendu ce jour-là. C'était par télépathie ou...
Mais voilà, ça montre que... Eric, écoutez, les Américains, ils sont très compétitifs quand il s'agit des jeux sport, non, enfin du sport en général. Et quand il s'agit du soccer, de football, c'est encore... parce que vous êtes sans ignorer que c'est du nouveau. En tout cas, ça prend de l'ampleur, mais c'est graduellement, ça prend un peu de temps pour arriver là où tout le monde est, bien sûr.
Merci Roger Mundou pour avoir contribué dans cette émission.
Merci,
on va
Eric,
écouter maintenant les supporters iraniens qui aussi sont contents d'avoir joué contre les États-Unis.
En première mi-temps, je pense que l'Amérique était meilleure. Je pense que l'occasion a probablement un peu perturbé les Iraniens, car il s'agissait d'un match à élimination directe. Mais après la deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment bien joué. Des résultats équitables, je dirais.
C'était bien grâce à Dieu. Les deux équipes étaient fortes.
C'était bien, mais nous voulions gagner. Malheureusement, nous avons perdu. Mais les Iraniens sont toujours gagnants.
Ce ne sont que des bruits extérieurs. Quand c'est sur le terrain, rien de cela ne compte. Honnêtement, peut-être que nous avons applaudi un peu plus fort, peut-être qu'ils ont applaudi un peu plus fort, parce qu'il y a un peu de tension entre nous. Mais à la fin de la journée, c'est du football. Tout cela n'a pas d'importance. Nous sommes ici pour en profiter et passer un bon moment. De toute évidence, les fans ont été gentils l'un envers l'autre. Il n'y a pas eu de problème aujourd'hui. Nous ne nous aimons pas, mais il n'y a pas eu de problème. C'est le football, c'est pour cela que nous sommes ici.
Voilà quelques supporters iraniens. Et je rappelle que l'Iran et les États-Unis s'étaient déjà affrontés pour le match de la Fraternité au Mondial 98 en France, où Iraniens et Américains avaient communié sur la pelouse, posant ensemble sur la photo officielle du match et s'offrant fleurs et fanions. Coach Fofo, vous voulez dire quelque chose?
Je voulais dire que aujourd'hui, on voit encore comment le football peut être rassembleur. La tension n'était pas là, la politique n'était pas là, le jeu a tout emporté, que du beau jeu. Et je crois que et aussi la réaction des joueurs américains après le match, ils avaient un coéquipier qui était blessé et donc ils sont aussi soucieux de ce joueur. C'est pour cela que vraiment cette réaction n'a pas vu qu'ils sont partis vers les autres, mais quand même aujourd'hui que tout le monde a pris parti et il y avait le beau jeu qui a emporté. Et c'était beau, magnifique à voir.
Tarsis, en quelques secondes sur ce comportement des supporters des deux côtés.
C'était magnifique, parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, les gens ont compris.
Problème.
Oui, Tarsis.
Disons qu'au niveau des supporters, quand le match se termine, ils se disent OK, bon, on a perdu le match, mais il y aura peut-être un autre rendez-vous. Et c'est la même chose que les joueurs, parce que la défaite aussi fait partie du jeu. Et dire que j'ai perdu, ça veut dire que je dois continuer pour, progresser. Et un jour, on se rencontrera. Mais ce qu'il faut dire, c'est. Au niveau de la télévision, parce que nous n'étions pas là, c'est qu'on ne sait pas vraiment. La télévision se focalise sur la joie, la victoire et tout ça. Ils oublient effectivement ces gestes qui sont des gestes importants et éducatifs pour le monde du sport. Ça, c'est important. Mais notez aussi que c'est un match sans problème. Ce sont les médias qui font monter la tension et aussi si on donne la place à certains politiciens. Mais je sens qu'au sein de l'équipe iranienne, c'est quand même difficile de digérer cette défaite face aux États-Unis.
Merci à Tarsis. Les Lions de l'Atlas du Maroc réussissent dans ce tournoi pour la première fois la passe de deux victoires d'affilée après trois éliminations frustrantes en Coupe du Monde dès le premier tour. Suivez ce reportage de Amine Birouk qui suit l'équipe marocaine à Doha.
Après le tirage au sort du Mondial à Doha le 1er avril dernier, peu de supporters marocains osaient prédire une qualification des Lions de l'Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. 8 mois plus tard, jour pour jour, cette utopie s'est transformée en réalité tangible. Une réalité qui ne doit rien au hasard puisque les poulains de Walid El-Gragui ont tenu leur rang ce soir devant le Canada avec un succès 2-1. Une victoire qui n'a pas mis longtemps à se dessiner puisque dès la troisième minute, Hakim Ziyech d'un superbe lob mettait en transe les 43 000 Marocains présents au stade Toumama de Doha. 20 minutes plus tard, l'attaquant Youssef Nseri doublait la mise et mettait les siens sur orbite pour une éventuelle qualification en tant que premier du groupe F, dans la mesure où dans l'autre rencontre du groupe, Croates et Belges se neutralisaient. Piqués dans leur rameau propre, les Canadiens réagissaient et réduisaient la mise, semant du même coup le doute dans le camp des Lions de l'Atlas. Toutefois, après le repos, les coéquipiers de Romain Saïs se mettaient en mode gestion du résultat. Un résultat immuable au coup de sifflet final, 2-1 pour le Maroc, qui permet à la QV 2022 de rejoindre la glorieuse génération de Mexico 86. Au Maroc, au Qatar, en Europe ou en Amérique du Nord, la nuit sera longue. Elle sera certainement rythmée par les klaxons de joie des inconditionnels d'une sélection qui a écrit le plus beau chapitre de son histoire depuis 36 ans. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Les Lions sénégalais vont affronter dimanche les Three Lions anglais, vice-champions d'Europe, qui ont validé leur qualification lancée vers la phase à élimination directe contre le pays de Galles. Coach Fofo, en 30 secondes, quelque chose sur les deux pays?
Non, je crois que bon, il y avait du beau jeu, ils ont essayé, mais bon, la raison en a emporté. Et nous voilà là où ils sont aujourd'hui. Donc, et la suite nous dira comment, et aussi effectivement, le football a trop évolué. Et donc, ça fait que nous allons voir la suite. Nous allons voir la suite. Merci.
Tarsis.
Oui, vous parlez de quel match? Du match Canada
Sénégal, la qualification non, du non. Sénégal et celle du Maroc.
L'Angleterre, le Sénégal a très bien abordé son premier tour. C'est une équipe qui se qualifie, qui est allée, vous le savez très bien, jusqu'en quart de finale. Eh bien, c'est de dire, écoute, on peut maintenant aller très loin. Mais évidemment, ce match des huitièmes de finale, c'est un match très, très compliqué face à l'Angleterre. Ça va être difficile pour le Sénégalais. La mission d'abord d'Aliou Cissé, c'est de récupérer. Je pense qu'il a fait reposer les joueurs parce que la fête était aussi grandiose à Dakar. Et ce qui me paraît très, très difficile face à l'Angleterre. Mais écoutez, les Lions de la Teranga sont capables aussi de faire un très bon match face à l'Angleterre.
Et si vous analysez le jeu des États-Unis, des Canadiens, des Mexicains, les Mexicains et les Canadiens ont été disqualifiés, ils ont plié bagage. Est-ce que pour vous, est-ce une performance de bon augure au pays du soccer à quatre ans d'une Coupe du Monde co-organisée par les trois pays, le Canada et le Mexique?
Tarsis. Oui, je pense que le Canada, malheureusement, était dans un groupe assez difficile, je l'ai dit. Le Canada est tombé sur la Belgique, est tombé sur la Croatie, les deux meilleures équipes du monde, qui ont été respectivement, si vous voulez, deuxième et troisième du mondial précédent. Et le Canada a fait son jeu. C'est une équipe qui a bien débuté. Quant aux États-Unis, moi, ça ne m'étonne pas, parce que quand on regarde, franchement, l'équipe des États-Unis qui se qualifie pour les huitièmes de finale, c'est une équipe qui est robuste, qui a pourquoi pas de l'expérience, parce que si on voit la composition avec Rin Robinson qui joue à Fulham, et puis de l'autre côté vous avez Depp qui peut faire aussi la différence, qui est de Celtic. Donc vous avez un bloc défensif presque anglais-écossais, et Adam qui peut tourner et qui peut freiner pourquoi pas les Pays-Bas.
Nous arrivons malheureusement au terme de cette édition de l'Amérique. Vous, merci à Tarsis Halelimana pour votre contribution. Merci au coach Fofo également. On avait encore à dire, mais ce sera pour vendredi prochain. À la prochaine.